L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Dakar Ibrahima Bakoum, journaliste et analyste politique sénégalais, membre du groupe de facilitation pour la pacification de l'espace politique. Avec lui, nous allons analyser le changement politique, géopolitique et géostratégique que pourrait induire l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme président du Sénégal et par la nomination d'un nouveau gouvernement sous la direction d'Ousmane Sonko. A tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Après une victoire éclatante avec 54,28% des voix à la présidentielle sénégalaise de fin mars 2024, le panafricaniste de gauche, en tout cas comme il se définit, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment à Dakar. Dans son tout premier discours, le cinquième président sénégalais, le plus jeune de l'histoire du pays, promet un changement systémique et plus de souveraineté pour le pays. Il a aussi mis l'accent sur le renforcement des efforts pour la paix, la sécurité et l'intégration africaine. Dans ce sens, le président Faye a nommé le même jour, au soir, au poste de Premier ministre, la figure clé de son élection, Ousmane Sonko. Le bilan économique du président sortant Macky Sall, surnommé le bâtisseur par ses partisans, est mitigé selon plusieurs experts économiques et financiers sénégalais. En 12 années de présidence, le président Sall a développé les infrastructures de transport, notamment les routes, les hôpitaux, clés en main, de nouvelles universités. Néanmoins, il a creusé la dette du pays qui s'établit actuellement à 76% du PIB. Il avait également promis d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, mais malheureusement sans succès. Le gros problème, c'est que ces infrastructures lourdes coûtent cher, en plus des frais de fonctionnement et de maintenance que l'État doit assurer, alors que la population attendait des investissements dans d'autres secteurs de l'économie comme l'agriculture, la pêche, etc. Le président Sall a signé des accords de pêche avec l'Union européenne et la Chine qui ont fait chuter le volume de poissons que les pêcheurs sénégalais ont chaque année. Et puis, la question du chômage, de l'emploi des jeunes est très présente au Sénégal dans un pays où les trois quarts de la population ont moins de 35 ans et rêvent d'une vie meilleure, ajoutant ce qui est tout à fait normal et légitime. Autant de défis que l'actuel président de la République et son gouvernement sont tenus de relever le plus vite possible. En plus des questions liées à la souveraineté financière et économique, comme celle du franc CFA, ou plus tard, s'il est adopté, l'écho. Le nouveau président aura également à mener une politique extérieure dans une situation régionale, continentale et internationale complexe avec ce qui se passe au Sahel, à la CEDEAO et le basculement du monde vers une architecture multilatérale sous le leadership des BRICS. Alors pour parler de ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Dakar, au Sénégal, Ibrahim Bakoum, journaliste et analyste politique sénégalais très au fait de la situation dans ce pays, membre du groupe de facilitation pour la pacification de l'espace politique. Ibrahim Bakoum, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accorder cette interview pour parler à vous et à l'Afrique en général. Et bon, au monde entier aussi.
Merci. Tout le plaisir est pour nous. D'autant plus que le Sénégal est un énorme pays, c'est pas n'importe quel pays en Afrique, et tout changement dans ce pays compte sur la situation continentale. Alors, première question, bien sûr, comme on dit, actualité oblige, comment analysez-vous les résultats de l'élection présidentielle sénégalaise et pouvez-vous nous dire quels sont les défis immédiats politiques, économiques et sociaux qui attendent la nouvelle équipe au pouvoir, c'est-à-dire le président et son gouvernement.
Voilà, vous avez parlé déjà de trois choses, défis économiques, politiques, sociaux. C'est plusieurs choses en même temps. Si vous le dites comme ça exactement, c'est qu'il y a des urgences partout. Vous savez, bon, cette élection, effectivement, a donné une haute physionomie de la présidentielle. D'abord, pour la première fois, le Sénégal se retrouvait avec un président qui est sortant et qui n'est pas candidat, premièrement, à la présidentielle. Deuxièmement, nous avons eu un candidat de la, la mouvance présidentielle qui n'a pas été très bien soutenu par ses partisans. Mais enfin, c'est vraiment un mouvement qui monte depuis 2019, très fort, animé par un certain Ousmane Sonko, que maintenant le monde entier connaît, je pense.
Oui.
Et derrière lui, évidemment, il y a celui qui vient d'être élu, Bassirou Diomaye en l'occurrence. On était parti pour éventuellement un deuxième tour, et c'est ce que le candidat du pouvoir voulait. S'il n'avait pas le premier tour, au moins passer au deuxième tour, évidemment, ce qui lui aurait donné un certain avantage, parce qu'il y a beaucoup qui avaient quitté sa mouvance dans un premier temps, mais qui l'auraient peut-être rejoint. Et la dernière chose qui est arrivée au quasi dernier moment, c'est l'appui du PDS, un ancien parti du pouvoir, qui a appelé et qui a obtenu, en termes de communication, que le candidat Bassirou Diomaye Faye aille voir serrer la main au président Abdoulaye Wade. Cette photo, quand même, a fait un effet. Et finalement, le pays a échappé à un deuxième tour, peut-être dont l'organisation aurait pu poser des problèmes. Finalement, Diomaye est passé au premier tour. Ça, c'était important à souligner.
D'accord.
Parce qu'en 2019, les gens avaient reproché au PDS de n'avoir rien dit, ce qui avait permis, pense-t-on, à Macky Sall de passer dès le premier tour. Cette fois-ci, évidemment, ils sont venus au dernier moment, mais quand même, leur apport, pense-t-on, en tout cas, on le dit même dans le camp de Diomaye, ça a été quelque chose, ça a évité le deuxième tour. Voilà donc pour cela. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y avait une demande très forte de changement. Bon, d'abord, pendant un moment, les Sénégalais parlaient de dégagisme, c'est-à-dire qu'il faut dégager celui qui est là. Cette fois-ci, le président Macky Sall ne se présenta pas. Il n'y a pas quelqu'un à dégager, mais il y a quelqu'un à qui barrer la route. C'était ça le truc. Donc, le vocabulaire, le glissement. On dégage pas Macky Sall, mais on barre la route à son candidat. Et ça a été fait dans les conditions qu'on connaît. La jeunesse a suivi, parce que le Sénégal est une population, comme vous l'avez dit, très jeune, 35% de la population. Pour 75% de la population à moins de 35 ans, c'est quand même quelque chose de très important. Et cette jeunesse-là,
absolument,
elle demande les emplois, elle demande la sécurité, et aussi politiquement, elle est maintenant très impliquée. Donc les défis politiques, les défis économiques, les défis sociaux. Alors sur la question sociale, c'est l'emploi d'abord, mais qui emploie-t-on? On emploie quelqu'un qui sait et dont le profil correspond à celui dont moi j'ai besoin pour mon entreprise, pour mon truc, etc. Est-ce que la formation y est? Ce n'est pas toujours le cas. On sait que la population est très jeune, c'est vrai, mais nous sommes héritiers, comme on dit, d'un système francophone où on est plus des gens de lettres que des gens de technologie. Évidemment, la jeunesse aujourd'hui est en train d'évoluer, mais pendant longtemps, on a été plus des littéraires. Donc, presque laissé en l'arbre par rapport à l'évolution du monde, de ce point de vue-là. Mais le Sénégal est en train de se rattraper, d'autant plus que c'est encore beaucoup plus facile maintenant qu'avant.
Oui.
Alors, donc, cette question-là de formation se pose. Ensuite, le secteur privé dont M. le président actuel, Diomaye, a parlé, effectivement, il faut dynamiser le secteur privé. Il l'a été à un moment donné. Mais vous savez, les évolutions politiques au Sénégal ont fait qu'à un moment donné, certains ont commencé à douter, d'autres sont partis pour punir le pouvoir qui était là, pas celui de Macky Sall, mais celui avant de Wade, etc. Donc, ces déraillements ont fait que des entreprises ont fermé, d'autres sont là, mais encore plus exigeantes en termes de qui est-ce que je vais employer. Donc, cette jeunesse est laissée en rade. Enfin, vous avez parlé de ces défis donc, politiques. Comme je dis, la jeunesse sénégalaise est maintenant très politisée, mais tout n'est pas de parler de politique. Il faut également comprendre c'est quoi le message et quand on nous offre quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, toute cette politisation qu'on pense positive de la jeunesse sénégalaise, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus que ça nous amène à être des rêveurs, quand je dis nous, pas moi bien sûr, mais je veux que ça ne faut pas que ça amène cette jeunesse a tellement révélé de choses que finalement,
oui,
on va
lui... Je crois que ce que vous êtes en train de dire là est très important, parce que, disons que nous sommes tous originaires d'Afrique et que nos pays, après les indépendances, ont connu cette atmosphère-là. Ceux qui ont lutté pour les indépendances, on ne peut pas ne pas les qualifier de panafricanistes, mais sombrer aussi dans une espèce de romantisme révolutionnaire, son projet pratique, réel, réalisable et échelonné avec une volonté de d'appliquer, d'avoir des résultats, les choses ne peuvent pas changer uniquement avec les discours. Et donc, j'aimerais vous poser la seconde question et puis je vous laisse encore développer. Alors, l'une des questions fondamentales que le nouveau président donc, a défendu lors de sa campagne, c'est la question de la souveraineté. Et de ce point de vue, le Sénégal devient un important producteur de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest. Et le président Faye veut renégocier les contrats miniers et énergétiques, y compris les plus importants avec le British Petroleum et l'opérateur minier d'or britannique Endeavour Mine. Alors, il est clair que sans le contrôle de l'État qui est sur les ressources du pays, qui est normalement donc, le garant du bien commun et de l'intérêt général, je ne vois pas comment on peut parler de souveraineté, ni comment l'État va avoir les moyens de lancer sa politique pour éradiquer la pauvreté, le chômage et industrialiser le pays. Alors, comment voyez-vous cette entreprise, cette idée-là annoncée par le président? Et le président dispose-t-il de leviers pour changer la donne, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit le Sénégal qui reprenne le contrôle sur les ressources? Et quelles seront les retombées sur l'économie nationale s'il réussit ce défi?
Bon, d'abord, la première chose, c'est comment faire pour arriver à une renégociation profitable au Sénégal.
Absolument.
Il est plus facile de l'annoncer que de passer à une phase concrète.
Absolument.
Parce qu'il n'y a rien qu'une renégociation pour prendre du temps. Une renégociation pour prendre du temps. Demandez-le au Sénégal, qui avait par exemple un truc avec ArcelorMittal. Après, on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait des problèmes. Et ça a duré des années pour ensuite aller à un procès, évidemment que le Sénégal avait gagné, etc. Donc, renégocier un contrat, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition des partenaires, pour ne pas dire des grandes puissances, autour des ressources du Sénégal. Et chaque partenaire veut avoir plus qu'un autre, parce que c'est comme ça. Quelle est la durée maintenant de ces négociations, le temps de la renégociation? Je pense que ce n'est pas aussi évident que ça. Maintenant, c'est très bien de le proclamer. L'idée avait été lancée avant par le président Macky Sall, qui a lui-même trouvé évidemment une partie d'accord juste des projets de protocoles signés par son prédécesseur, le président Bébé, en l'occurrence. Mais Macky Sall c'est un ingénieur, il a fait des études en pétrole, etc. Bon, ça a le prédisposé normalement à comprendre certaines choses. Mais malgré tout, je dis encore une fois, renégocier un contrat, c'est facile à dire, mais passer à la concrétisation, c'est difficile. Le Sénégal a besoin, c'est vrai, de ses ressources. Mais quand celui qui vient investir vous dit, OK, c'est moi qui viens avec les moyens de la recherche, ensuite c'est moi qui installe les moyens de la production, bon, il va falloir évidemment qu'on me donne une part de mes investissements, ensuite après on va voir. Et quand on se rend compte que parfois le Sénégal n'a que, en tout cas sur le papier au moins, on parle seulement de 10%, après peut-être ça peut évoluer, et on dit, bon, les trucs de fiscalité, mais tout ça, ramené à une réalité, ce que j'appelle la réalité, c'est que le discours politique est très beau, mais la concrétisation, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est très bien qu'au moins on l'envisage. Parce que, comme je dis, si on, dans un premier temps, on le déclare et on engage le processus. Ça peut arriver à quelque chose, mais je dis encore une fois, il ne faut pas que les Sénégalais pensent que dès juin prochain ou dès décembre prochain, ça va tout rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas aussi évident que ça, parce que les partenaires qui investissent également, ils ont des moyens de se défendre et ils savent se défendre. C'est pourquoi je dis, ne rêvons pas en votre coup.
D'accord. Alors, l'autre question qui est fondamentale aussi, c'est la question du franc CFA. Parce que parler aussi, et je rajoute encore une fois, parler aussi de souveraineté économique et financière, on ne peut faire l'économie de parler de cette question fondamentale. Et je rappelle, le franc CFA, donc pour colonie française d'Afrique, le franc pour colonie française d'Afrique, a été créé par le général de Gaulle le 26 décembre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, le franc CFA est devenu la monnaie officielle de tous les États d'Afrique se trouvant sous domination française, devenu depuis 1961 le franc de la communauté financière africaine. Et à ce jour, il demeure la monnaie officielle des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qu'on appelle l'UEMOA, qui contient le Bénin, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Mali, Niger, le Sénégal et le Togo. Et il est considéré comme une monnaie du colonisateur, encore le disent les Africains eux-mêmes, qui empêche encore le développement de l'Afrique. Et les États ouest-africains ont mis sur pied l'idée de la création d'une nouvelle monnaie qui est l'éco. Donc, pour remplacer le franc CFA. Et ce projet prévoit d'intégrer les pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, constituée des 8 donc, États de l'UEMOA et des 6 pays de la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et le Sierra Leone. Et ces pays ont des monnaies nationales. Donc, la question ici qui se pose, étant donné que c'est toujours la France qui est la garantie en dernier ressort du franc CFA, comment ces pays pourraient-ils se développer alors qu'ils n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie? Et puis, le nouveau président a promis de sortir le Sénégal de ce système, c'est-à-dire du système CFA, et de créer une nouvelle monnaie. Alors, qu'en pensez-vous? Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, entre les déclarations et la réalisation pratique, il y a tout un chemin à faire.
Oui, tout à fait. Le chemin est encore long. Évidemment, les intentions sont là, comme je le dis. Sortir du CFA, les spécialistes, évidemment, vous en auraient parlé davantage. Quelles sont les difficultés que nous avons actuellement avec le CFA? Si vous prenez, par exemple, l'essentiel des exportations de nos pays, ce que ça nous rapporte, une bonne partie de cet argent-là est encore gardé à la Banque de France. Mmh. Cela fait que nous avons ces difficultés.
Ouais.
Hein? 50%, c'est quand même beaucoup. Donc, ça veut dire que si nous n'avons pas cette autonomie, j'allais dire cette indépendance sur notre monnaie, évidemment, la monnaie est un outil extrêmement important en matière d'économie. Ouais, comment développer des pays quand une bonne partie de ce que nous exportons ne nous revient pas directement en termes d'apport, mais est consigné ailleurs quelqu'un d'autre qui, après, nous prête de l'argent. Autrement dit, c'est presque comme si quelqu'un vous confie son argent, vous demande ensuite de lui prêter de l'argent, vous lui reprêtez l'argent qu'il vous a confié. Oui. Et c'est ça qui est assez drôle là-dedans. Le CFA, l'essentiel donc de cette masse financière, c'est dans la Banque de France. Et la France, avec son agence de développement, prétend nous aider. Et quand elle nous aide, elle nous renvoie l'argent qu'on lui a confié. Oui. Donc, elle va prendre un bon pourcentage sur l'argent que nous lui avions confié. Donc, on lui confie 1 million de francs CFA. Ensuite, nous avons besoin qu'il nous prête 200 000 francs. Il nous prête 200 000, mais il va le prélever peut-être dans ce qu'on lui a prêté, et après il va prendre un intérêt. Donc c'est nous qui finançons finalement l'économie française de cette manière-là, en tout cas au moins une bonne partie de l'économie française. Et c'est un ancien président français, je pense, qui disait que si nous donnons à l'Afrique 25 francs CFA, eh bien, nous lui prenons également 100 francs CFA après.
Donc, voyez-vous,
Chirac. Cette histoire de monnaie, donc, est une question extrêmement pointue, sérieuse. Bon, les Africains ont pensé à ça, mais vous savez, tout n'est pas que les gens fassent une déclaration. Il y a également des gouvernements qui n'ont pas toujours intérêt dans la rupture des relations avec la France pour une raison bien simple. Parfois, on est arrivé au pouvoir avec l'aide de la France. On en connaît des cas où la France est énormément intervenue pour obtenir qu'un tel passe plutôt qu'un autre. Elle a ses avantages en Afrique. Donc, celui qui vous a aidé à venir au pouvoir a également un mot à dire sur votre manière de gérer le pouvoir. Et la manière de gérer le pouvoir, si elle est strictement à l'avantage de l'Afrique ou du pays concerné, évidemment, peut-être que ça peut ne pas intéresser la France. Et dans des cas comme ça, on connaît comment ça se passe. Jacques Foccart, c'est peut-être une autre époque, c'est fini, mais quand même, des Foccart en plus intelligents peut-être dans la démarche, existent toujours. Et là encore, ça crée des instabilités en Afrique. Sortir du CFA, on en parle. Créer l'écho, on en parle. Bon, mais qui encore est prêt? Si nous prenons par exemple le truc francophone, la partie francophone, le moteur c'est la Côte d'Ivoire et peut-être bientôt le Sénégal, en tout cas la Côte d'Ivoire et le Sénégal en même temps. Mais ces deux pays, bon, l'un est très francophile, je parle de la Côte d'Ivoire, le Sénégal est en train de vouloir s'inscrire dans une dynamique un peu plus indépendantiste, enfin un peu plus libéré, on va voir ce que cela va donner. Mais encore une fois, moi je préfère seulement être réaliste en disant les engagements c'est bien, en tout cas un économiste vous en parlerait peut-être davantage que moi je pourrais le faire, c'est vrai, mais quand même il faut vous dire que ce n'est pas la première fois que cette idée est lancée. Bien souvent l'Afrique a eu des idées de remodeler la coopération, de tirer davantage de trucs, mais ce que Senghor disait à l'époque, la balkanisation fait que de petits États, en termes de territoire peut-être, mais également en termes de moyens. Le Sénégal est en train peut-être d'entrer dans une nouvelle ère économique avec ses ressources, mais encore une fois, retour sur donc notre point de départ, combien on gagne dedans? Quels sont les avantages pour le Sénégal? Qu'est-ce qu'on va renégocier? Quand on va renégocier, qu'est-ce que ça va donner? Combien de temps ça prendra? Donc voyez-vous, tout ce que nous disons jusqu'à maintenant, renvoie encore à la question économique, à la question monétaire, à la question de ses ressources, mais surtout, et je répète, à la question de la possibilité pour nos gouvernants de décider de la politique économique tout seul, de décider de la politique diplomatique, etc. Mais encore de la diplomatie. Mais encore là, je répète, tant que nous sommes en termes de Sénégal isolé, Mali isolé, Guinée isolée, Burkina isolé, Niger isolé, Tchad isolé, etc., tant qu'on en est là, évidemment, on ne sera pas fort. Donc, il faudra faire que nous pensions déjà à un regroupement de cela. Mais comment le faire, c'est autre chose.
D'accord. Alors, une dernière question de cette partie. Comme vous avez déjà évoqué l'écho, en réalité, c'est une monnaie qui est nouvellement proposée, mais en fait, elle ne diffère pas du franc CFA, du moment que c'est la France qui la garantit et c'est la France qui va, in fine, qui va l'imprimer. Et ainsi de suite. C'est la France, donc, comme vous avez dit à juste titre, elle aura son mot à dire sur la question, certainement. Bien, alors...
Elle donne déjà son mot.
Bien sûr. Et alors, il y a aussi la chose de l'aide au développement, et que vous avez un peu effleuré tout à l'heure, mais il y a le souci de revoir la politique donc, africaine de la France. Emmanuel Macron a remis en cause donc, l'un de ses piliers lors d'une conférence de presse en février 2023, quelques jours avant sa tournée, qualifiée de ratée dans quelques pays africains, notamment la République démocratique du Congo. Alors, l'aide au développement, APD, gérée par l'Agence française du développement, AFD. Alors, le président français entend donc passer de la logique d'aide à celle d'investissement, enfin c'est ce qu'il prétend, pour établir, selon lui, une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays du continent africain, en particulier ceux de la zone franc CFA et de la CEDEAO. Bon, maintenant la question, c'est à ce jour... Étant donné que le pays de la zone franc CFA dépose 50% de leur avoir en devise, contre lesquels la France imprime la monnaie qu'on appelle le franc CFA, de leurs avoirs. Alors, est-ce qu'on peut dire que la France vraiment a une politique d'aide envers les Africains, alors que c'est l'argent qui est déposé dans les banques françaises de l'Afrique qui finance. Et en plus de ça, en général, cela revient aux entreprises françaises qui viennent en Afrique.
Oui, c'est déjà un véritable problème. Vous avez dit, on parlait donc de cet argent déposé à la Banque de France, qu'on nous reprenne ensuite qu'on redonne sous forme d'aide, avec évidemment des intérêts, et Les entreprises françaises dont vous parlez, évidemment, bon, il y en a environ peut-être quelque chose comme 250 au Sénégal. Bon, évidemment, je ne connais pas le poids de chacune de ces entreprises. Bon, ben, je ne fais pas de publicité non plus, j'en ai que je connais. Donc, c'est vous dire que ce discours-là, même côté français, n'est pas nouveau.
D'accord.
Et la France a eu, à l'arrivée de François Mitterrand, un certain Jean-Pierre Cotte, qui était à l'époque ministre de la Coopération, qui avait un discours extrêmement révolutionnaire, on pensait que ça changeait tout. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que bon, Jean-Pierre Cotte lui-même n'est pas très resté longtemps, il est parti, et Mitterrand, peut-être le gauchiste, enfin l'homme de gauche, le socialiste, etc., par la suite est revenu aux réalités de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et cette France-Afrique, donc, continue encore de plus belle. Et alors, il faut évidemment des initiatives pour changer ça, parce qu'évidemment, il n'est pas question non plus de se mouvoir dans un truc, savoir si ça c'était là depuis longtemps, on n'y peut rien. Absolument, on peut faire quelque chose. Des initiatives isolées, il y en a, et c'est progressivement qu'il va falloir peut-être fédérer tout ça. Comme on dit, il y a eu des initiatives avant ce que le nouveau président de la Diomaye propose, ce qui était déjà dans leur projet de PASTEF, mais il y a eu d'autres idées comme cela en Afrique, et ces idées isolées ont été parfois portées par des gens qui n'ont pas survécu. Par exemple, vous prenez un Thomas Sankara qui avait ces idées, mais avant Thomas Sankara, il y en a eu d'autres. Bon, vous prenez le cas des Lumumba, etc. En fait, c'est sûr, on fait un énorme saut en haut, après on retombe sur nos pieds. On a l'impression que vraiment, on n'a pas encore bougé. En fait, on a bougé dans la tête, on a bougé dans les initiatives, on a bougé même parfois dans le courage de faire, mais les moyens d'y parvenir, c'est ça. Comme je dis, ce qu'ils appellent le système, je dis, le système, il est puissant et résilient tout à la fois. Il est puissant, ça veut dire quoi? Il s'est donné les armes de sa survie pour rester plus longtemps. Et la résilience, c'est qu'il change des acteurs, il change de physionomie, le fond reste le même. Donc, la monnaie dont il est question ici, dont vous avez parlé, cette aide au développement dont on parlait tout ça, ces initiatives africaines de remodeler tout ça, de changer, elles sont très belles du point de vue du discours. Mais vous savez, il est plus facile de tenir un discours révolutionnaire et
que d'avoir une démarche pratique révolutionnaire.
La pratique révolutionnaire, elle n'est pas facile à faire. Hein. Comme on dit, il n'y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Bon, mais parfois, la théorie, elle n'est pas très adaptée. Donc, voyez-vous, nous avons des populations diverses du point de vue du niveau de compréhension, du point de vue de l'acceptabilité du nouveau discours, et il faut encore prendre le temps d'imprimer ça. Les gens ont des urgences. Comme on vous dit, très bien, c'est beau le bon discours, mais donnez-nous à manger tout de suite. Le jeune de Dakar va dire « donnez-moi du travail ». Le paysan là-bas va dire « ok, mais aidez-moi à développer mon agriculture ». Un autre, relativement de la société, de la classe moyenne, va dire « ok, mais baissez le loyer au moins à Dakar ». Bon, parce que l'essentiel de la population se trouve à Dakar, en termes de pourcentage. Donc, voyez-vous, si on vous dit qu'à peu près un Sénégalais sur quatre est dans la périphérie de la région de Dakar, bon, ça veut dire quoi? Il y a une forte concentration ici. Et cette concentration ne produit pas forcément de la plus-value. Pourquoi? Parce que ces gens n'ajoutent pas de la valeur. C'est des consommateurs, pas producteurs. Quand on consomme plus qu'on ne produit, qu'est-ce qu'on consomme? Des produits venus d'ailleurs. Parce qu'on nous a formatés dans la consommation. Nous consommons très français, nous consommons très européens. Ce que nous produisons est déjà faible par rapport à nos besoins. Mais même si nous en avions assez, l'orientation de notre cuisine fait que nous sommes plus portés à importer des produits. Et ce que nous importons, avec quelle monnaie on fait, avec quel moyen de change on fait, tout ça fait que c'est extrêmement difficile. Donc l'aide au développement dont il est question, c'est très bien, mais encore, on n'a jamais développé un pays avec de l'aide. Un pays s'est développé avec ses ressources propres.
Absolument.
Avec ses
matériels et propres. Humaines.
Moyens matériels et moyens humains.
D'accord.
Si aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, si aujourd'hui nous avons les ressources qu'on n'a pas encore commencé à exploiter, il faut que ça soit clair. Ce qui est exploité au Sénégal depuis longtemps, de l'or on en a, du zircon on en a, on vient de parler de gaz, on a de pétrole, tout ça. Le Sénégal est hyper intéressant de ce point de vue pour tout le monde. Mais c'est justement, comme disait un ancien président du Sénégal, c'est ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Évidemment, quand vous avez le pétrole, quand vous avez la ressource, vous devenez intéressant pour tout le monde, mais également vous devenez une cible pour toutes les agressions.
D'accord, bien. En tout cas, le nouveau président a presque 55% de soutien populaire. Donc, il a quand même un bon levier pour changer les choses. Bien, au moins, soutien populaire, c'est très important. Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, on se retrouve en compagnie de mon invité Ebrahima Bakoum pour la seconde partie de l'émission dans quelques instants. À tout de suite.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact et marché en main. Politique, économie, défense et diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ebrahima Bakoum, journaliste et analyste politique sénégalais, membre du groupe de facilitation pour la pacification de l'espace politique. Ebrahima Bakoum, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'entretien.
C'est un plaisir, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup. Alors, pour terminer avec la question de la monnaie et du franc CFA, j'aimerais quand même poser une question avant de passer aux questions géopolitiques, poser une question, une dernière question qui me semble très très importante. Alors, Ebrahima Bakoum, étant donné que le franc CFA est toujours adossé à une valeur fixe, c'est très important, à une valeur fixe, c'est-à-dire à l'euro, et l'euro, même si l'euro change, la valeur du franc CFA par rapport à l'euro est toujours fixe et elle est à peu près de 657 francs CFA pour 1 euro. Alors, ce n'est pas seulement dans ce cas, puisqu'il est adossé à l'euro, ce n'est pas seulement la France qui profite du pillage de l'Afrique, mais c'est toute l'Europe. Avec l'euro, tout pays européen qui voudrait payer en euro, il va venir pas pour commercer, mais pour s'en servir dans les pays africains. Alors, la chute de l'euro dans le sillage de la crise ukrainienne, c'est ça la question. Contrairement donc aux affirmations des dirigeants français qui ont dit que la dévaluation ou la fixation ferait du bien pour les économies africaines, comme Lionel Jospin à Dakar, elle a non seulement donc eu des répercussions inflationnistes sur les économies de la zone franc CFA, mais elle a même fait exploser les dettes libellées donc en dollars de ces pays ou en euros. Alors, pourquoi les pays européens continuent à avoir cette politique-là de pillage des ressources de l'Afrique, alors qu'ils prônent les droits de l'homme, un nouveau monde basé sur des règles où tout le monde est gentil, tout le monde est beau et tout le monde va trouver son compte. Alors, pensez-vous que sous la présidence actuelle du Sénégal, on peut voir un changement, au moins en ce qui concerne le Sénégal, par rapport à ça?
Comme vous dites, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais certains pays d'autres. C'est tellement, ça c'est la vérité. En fait, vous savez, effectivement, cette monnaie, comment ça s'appelle ça? Cette parité fixe.
Un parité fixe, exactement.
Avec la crise qui est là-bas, qui a forcément impacté les économies européennes. Donc, impact l'euro, en impactant l'euro directement ou indirectement, impact le franc CFA. Ça fait que quand nous achetons un produit que peut-être à l'époque vous pouvez nous coûter 5 000 francs CFA, maintenant c'est en train de nous coûter plus. Et quand ça nous coûte plus, parce qu'effectivement ça coûte plus à l'euro, donc toujours comme ça, nous, à l'arrivée à la consommation, encore au détail, ça va être beaucoup plus compliqué pour les familles.
Absolument.
Donc, même le pouvoir parti, la Macky Sall, disait la même chose, qu'effectivement, il y a un impact de la crise ukrainienne. Pas seulement ça, il y avait également Covid. Bon, le Covid a été plus fort chez vous, quand je dis chez vous, en Europe et ailleurs, qu'en Afrique. On avait craint évidemment que ça puisse, que ça dérègle tout en Afrique, que ça ferait on pensait des millions de morts en Afrique. En fait, finalement, cela ne s'est pas passé comme ça. Mais la crise ukrainienne est là. Donc, quand il y a des difficultés en Europe, ces difficultés sur la monnaie européenne, l'euro, sont forcément répercutées sur le CFA. Et le CFA qui fait de l'importation ailleurs, dont une partie donc de cet argent est encore dans la Banque de France, d'une manière ou d'une autre, quand le produit arrive à Dakar, quand le produit arrive au Sénégal, bon, il est majoré. Et nous sommes effectivement dans des cas où effectivement on a de l'huile. Le Sénégal, c'est quoi? Le Sénégal, on vous dit, si vous avez de l'huile, si vous avez des riz, si vous avez du poisson, si vous avez de la viande, ça va, vous avez ce qu'il vous faut. Bon, poisson, évidemment, schématiquement. Mais, parce que même le bétail de chez nous, pour alimenter le bétail, il faut aller chercher également l'aliment de bétail. L'aliment de bétail, si on en importe une bonne partie, c'est un problème. Si vous devez faire la même chose pour fructifier certains produits au Sénégal, en fait, quand le cours de l'euro se ressent, la crise ukrainienne, d'une manière ou d'une autre, la monnaie arrimée à cela finit par avoir les mêmes problèmes. Donc, nous en avons, et quand ça se passe, évidemment, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe avec maintenant les propositions de M. le président Diomaye Faye? C'est que, comme je dis, c'est un inspecteur des impôts et des domaines. Donc, de ce point de vue, ils connaissent les rentrées d'argent. Ils savent d'où vient l'argent à peu près. Mais il n'y a qu'une seule partie de ça qu'ils voient. Quand je dis comme inspecteur des impôts, on peut savoir qui paye et qui ne paye pas. Bon, les entreprises qui sont ici, étrangères en général, y compris même les Sénégalais aussi, il y en a beaucoup qui ne payent pas l'impôt, alors qui sous-évaluent ce qu'elles devraient payer, ces entreprises-là. Alors, monsieur le président actuel et aussi son premier ministre, Ousmane Sonko, sont tous les deux des inspecteurs du travail. Évidemment, leur adversaire, le principal qui est parti contre Abattu, Amadou Ba, également était inspecteur du travail. Donc, inspecteur des impôts plutôt. Tous ces gens-là connaissent là. Mais est-ce que ça suffit pour comprendre ce qu'on appelle le fonctionnement de l'État? Ce n'est pas très simple. Donc, pour revenir encore à la question, rappelez-moi la question, la dernière là, sur donc, cette histoire de monnaie.
Allez-y. C'était, je vous ai dit, est-ce que dans le cadre de cette nouvelle présidence, on peut espérer un changement, en tout cas au moins pour le Sénégal?
Parce que le changement, comme je dis, est plus facile à énoncer, à mettre sur du papier qu'à mettre en pratique. Parce que il y a, en fait, les points de divergence sont énormes. Déjà entre les acteurs à l'intérieur, parce qu'il y a effectivement des économistes sénégalais qui ne sont pas aussi favorables à une sortie tout de suite du franc CFA, ou alors même de changer la monnaie. Et ensuite, le président Diomaye qui vient d'arriver, a encore besoin de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement et de l'État, je dis bien de l'État, et surtout de la coopération internationale. Parce que les relations avec le reste du monde, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, il n'est même pas question que le Sénégal fasse de l'autarcie, quand seulement sous l'entre nous.
En
le faisant, c'est des questions qui ne sont pas simples.
Bien sûr.
Il n'a pas tout de suite les moyens de le faire, c'est mon point de vue.
D'accord. Alors là, vous me tendez justement la perche, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai repris la parole, parce que vous venez de dire ce que vous venez de dire, et je vais vous laisser continuer tranquillement le développement. Vous me tendez la perche pour la seconde question. Alors, Ibrahima Bakoum, les trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont connu des changements de pouvoir après, suite à des coups d'État, alors, ont créé dernièrement une alliance qui prévoit En plus de la coopération sécuritaire et militaire pour combattre le terrorisme et sécuriser leur pays, ils ont prévu une sortie du franc CFA, justement, et la création d'une monnaie commune à même de recouvrir leur souveraineté financière et d'avoir les moyens pour assurer leur développement. Alors, moi, ma question, justement, comme on arrive au volet des relations internationales, qu'en pensez-vous d'abord de cette démarche-là des pays du Sahel? Et puis, le Sénégal serait-il tenté, sous la présidence de Faye, à intégrer cette alliance?
Vous venez de parler de trois pays où ce qu'on appelle le terrorisme ou le djihadisme a été très fort, surtout le Mali et le Niger, fortement impacté par cela, par ces crises donc djihadistes. Alors, des coups d'État par-ci, au Niger, au Burkina, au Mali et ailleurs, ces trois pays décident donc de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Mais cette AES-là est composée de pays qui n'ont pas de façade maritime. C'est déjà un handicap.
Absolument.
Le Sénégal a sa façade atlantique, ce qui lui permet vraiment d'avoir un bon fonctionnement de son port. Une bonne partie des produits consommés au Mali viennent du port de Dakar ou d'Abidjan. Et par ricochet également, les autres ont besoin de cette circulation-là pour avoir les produits dont ils ont besoin. Il y a un partenaire un peu plus au nord, évidemment, qui leur propose des choses, mais c'est encore trop loin par rapport à Dakar. Donc, si Dakar faisait partie de cette chose, ça pourrait un peu mieux marcher, mais à eux trois isolés, ce n'est pas simple. La volonté y est, les populations suivent, comme on dit, au plan théorique, c'est très intéressant, mais les populations ne peuvent pas attendre trop longtemps la promesse de mieux. Les populations ne peuvent pas attendre trop longtemps la promesse de ça va se développer. Et pour cela, jusqu'à maintenant, c'est des régimes populaires, pour l'essentiel, suivis par les trucs, mais encore qui vont se dire, OK, débarrassez-nous de violences djihadistes, on verra ce que ça va donner déjà, parce qu'on accuse un État, je ne donne pas lequel, d'avoir financé, d'avoir aidé ces mouvements djihadistes en Afrique, surtout au Sahel. Et on nous a envoyé, enfin, l'armée française disait avoir mis des trucs, mais on s'est rendu compte que, peut-être pour prendre le cas précisément du Mali, le Mali estime que c'est après ça, s'être débarrassé un peu de soutien français, qu'ils ont commencé à récupérer des parties du territoire qu'ils avaient perdu. Donc, cela veut dire quoi? Que peut-être que la France avait son importance ici, mais qu'est-ce que ça faisait? Les populations donc, ont applaudi, on se dit, mais très bien, enfin, nous commençons à avoir la liberté de nous mouvoir dans certaines zones. Mais encore une fois, je répète encore, le système est puissant et il est résilient. Donc, vous le chassez par ici, il revient de l'autre côté. Donc, la proposition de Diomaye, du président Diomaye, de revoir une partie du partenariat avec les autres. Mais dans son dernier discours, il a dit, ça ne veut pas dire que nous rompons avec les autres. Et si vous ne rompez pas, c'est de nouvelles conditions. Qui va définir les conditions? Il a appris à des concertations à venir. Ces concertations-là, peut-être pourront, oui, ou j'allais, pourraient éventuellement aider à dire, voici vers quoi nous voulons aller, parce qu'il a parlé de réforme de certaines institutions, tout ça. C'est intéressant dans le discours, la faisabilité, c'est ça qui pose problème. Parce que comme on dit, le discours révolutionnaire est très beau, mais c'est la pratique révolutionnaire qui va poser problème. Et la pratique révolutionnaire suppose de rompre beaucoup de choses qui ont existé, de casser une certaine dynamique. Et si vous cassez la dynamique, tout de suite, vous la remplacez par quoi? Si vous n'avez pas de solution immédiate, il y a problème. Si vous dites, bon, mais je le fais dans la durée, à moyen et long terme, le moyen terme, c'est combien? L'attente des populations, c'est pour quand? Donc, tout cela n'est pas très simple, du tout, n'est pas facile. Si bien que c'est extrêmement important, c'est vrai, que ce qui se passe maintenant dans ces rapports avec la France, dans ces rapports avec l'Europe qui profite forcément de ces trucs-là, de comment ça se passe avec l'esclave français, si bien que ces pays, bon, si je prends le cas de l'Allemagne, par exemple, effectivement, cherchent à avoir sa place dans ce qu'on appelle le gâteau africain. Mmh. Et d'autres également font la même chose. Les États-Unis ne peuvent pas laisser un pays comme la Chine, par exemple, venir s'installer comme elle veut. Il y a également, tout le monde a besoin de ça. Mais le Sénégal en particulier est devenu à la fois. D'abord, le Sénégal, du point de vue de sa géographie, était géographiquement très intéressant parce que c'était très proche de l'Europe. C'est également très proche de l'Amérique parce que c'était la première porte à partir de la mer, etc. Donc, ce pays est intéressant. Comme disait quelqu'un, commencez par contrôler le Sénégal et vous avez le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et si vous avez le reste de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale pourrait suivre. Vous avez parlé tantôt de la RDC. Regardez ce qu'il y a comme richesse minière en RDC. Dans quoi ils sont, ce pays-là? Dans des difficultés tout le temps. Parce que les guerres là-bas, les conflits localisés, tout ça, sont alimentés par d'autres forces extérieures, non pas au Congo, mais même extérieures à l'Afrique, qui viennent parce qu'ils y ont intérêt. Là, il y en a, comme disait quelqu'un, c'est les rentiers de la tension. Mais ici, c'est les rentiers de la déstabilisation d'Afrique. Ces rentiers-là, comme je dis, ces pays européens qui prétendent venir nous aider, en fait, ils viennent chercher.
Bien. Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, Ibrahima Bakoum, alors, il y a quand même un changement qui se passe dans le monde. Et on a, au cours de la décennie 2000, les pays des BRICS, en particulier la Russie, la Chine et l'Inde, ont aidé à repositionner l'Afrique comme source de produits de valeur sur le marché mondial et ont également aidé à mettre l'accent sur les défis auxquels l'Afrique doit encore faire face, hein, pour ce qui concerne la création d'une croissance durable et au moins l'éradication aussi, ou la réduction, si ce n'est pas l'éradication de la pauvreté. Alors, ce point, avant de passer à deux autres questions extrêmement importantes, est-ce que le modèle de développement, parce que vous parlez justement de la beauté du discours révolutionnaire, mais maintenant il faut mettre en pratique ça, il faut faire en sorte que cela devienne une réalité. Alors, de ce point de vue, le modèle de développement des BRICS, donc, dont la résilience russe aux sanctions occidentales, peut-il devenir une réponse aux enjeux majeurs auxquels sont confrontés les pays africains, en montrant donc à ces derniers qu'un progrès rapide est possible, hein, et c'est non seulement en matière de croissance économique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Et c'est ce que nous avons vu en Chine, par exemple, et c'est l'exemple le plus éclatant. Et le Sénégal, ma deuxième question, serait-il encore intéressé à intégrer donc, ce groupe, qui est le groupe des BRICS?
Oui, le BRICS donne déjà une autre lecture du pacte multilatéral des relations internationales. Regardez les pays qui composent le BRICS. Bon, vous avez donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et maintenant l'Afrique du Sud, le BRICS. Donc, alors, ces pays n'ont pas une tradition de pays colonisateurs, comme le sont les pays européens, par exemple, et comme les États-Unis en partie. Donc, ils n'ont pas une tradition de pays colonisateurs. Donc, force, et même certains d'entre eux ont été d'anciennes colonies quelque part, d'une certaine manière. Donc, la lecture du monde que ces pays peuvent avoir n'est pas la même que, par exemple, les anciens colonisateurs qui, quand ils nous parlent avec une sorte de complexe de supériorité et également de « c'est nous qui sommes là, nous voulons qu'on aille être là selon des modèles ». Alors donc, s'il y a ce nouveau pôle de développement, ce nouveau pôle de relations internationales, oui, moi, je pense qu'effectivement, le Sénégal, pour éviter ce que je disais tantôt, de pays isolés faisant, ce serait bien que le Sénégal puisse aller dans quelque chose d'affirmant, un regroupement encore beaucoup plus fort, comme par exemple le BRICS, parce que si nous y entrons, au moins nous sommes à peu près certains, ce qu'on appelle la possibilité de dire oui et non. Et si je crois que c'est De Gaulle qui disait qu'un oui n'avait de valeur que lorsque celui qui le dit a le droit de dire non. Donc, si nous entrons dans les BRICS, par exemple, ça nous permet, tout en restant en coopération avec les autres, il n'y a pas de problème, mais au moins savoir que si on nous tord le bras et si on peut avoir les moyens quand même de résister et de nous en sortir. Mm-hmm. Mais tant que nous restons enfermés dans une logique de nord-sud francophone ou franc-afrique, évidemment, on ne s'en sortira pas. Mais encore une fois, aller vers le BRICS serait peut-être intéressant parce que ça nous permettra au moins de diversifier nos partenaires, ça c'est un. Et deuxièmement, éventuellement, avoir les moyens de se protéger. Mais quels sont les moyens pour y arriver? Je parle des moyens politiques et diplomatiques pour y arriver. Mm-hmm. Pour changer les paramètres de coopération, les paradigmes, comment aller vers autre chose?
Alors, la question suivante, Ibrahima Bakoum. L'Afrique est un continent marqué par la diversité et l'hétérogénéité de 54 États, offrant donc un tableau contrasté en termes de développement économique, de richesse de ressources naturelles. Et les BRICS aussi, c'est-à-dire dans leur relation avec l'Afrique, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes plans. Par exemple, la Russie qui regorge de ressources naturelles n'a pas besoin d'aller en Afrique pour se servir en ressources naturelles. C'est pas la question. C'est pas la même chose pour la Chine et pour l'Inde. Je voulais dire que les pays qui composent les BRICS ont des agendas différents par rapport à l'Afrique.
Tout à fait. Ils ont des agendas de renforcement, de leur économie, de renforcement de leur sécurité, de diversification des partenariats. Tout ça est intéressant parce que, comme on dit, c'est une expression de chez nous en Wolof, on dit que c'est en changeant de lieu qu'on peut savoir quelle est la différence. Donc, si nous restons exactement toujours arrimés, je veux dire, bloqués sur la France, évidemment, nous ne pourrons jamais voir de l'autre côté. Il nous faut donc changer cela. Il faut que nous nous ouvrions, quand je dis nous, je parle du Sénégal, mais l'Afrique également devrait le faire plus largement. Mais encore une fois, tant que nous sommes des pays isolés, Sénégal ici, Mali là, Guinée-Bissau, Gambie, etc., isolés, évidemment, nous sommes plus faciles à maîtriser. Mais si nous venons en bloc, les BRICS, déjà, regardez qui sont dans. C'est une puissance, regardez, la superficie de la Russie, la superficie de l'Inde, tout cela, c'est des pays extrêmement... Nous, nous sommes 54, d'accord? Mais vous prenez la moitié de ces 54, vous n'avez toujours pas un énorme pays. Alors donc, si nous avons des ressources, d'accord, mais pour les avoir, pour en profiter, il faut bien qu'effectivement nous ayons des États qui disent, nous avons la possibilité d'être avec vous ici, mais également d'être avec les autres. Mais si nous nous enfermons dans une coopération verticale, Europe-Afrique, ensuite radicalement ancrée avec un seul pays plutôt qu'avec d'autres, évidemment, on a ces problèmes. Donc, l'intérêt pour l'Afrique, c'est effectivement de s'ouvrir à ce bloc-là, de multiplier, de diversifier le partenariat.
La question que vous avez évoquée tout au début, une question extrêmement fondamentale, qui est celle de la formation. Hein, la formation technique, donner la compétence, le savoir-faire technique, et pas uniquement pour devenir des techniciens qui appliquent les technologies que le pays pourrait importer de l'extérieur, mais des ingénieurs aussi qui peuvent développer une technologie propre au pays. Alors, et le transfert de technologie et l'industrialisation, la transformation des matières premières dans les pays africains. Moi, j'ai toujours défendu l'idée de même constitutionnaliser l'interdiction de vendre les matières premières brutes. Jamais vendre les matières brutes, il faut les transformer sur le sol africain.
Je suis tellement d'accord avec vous. Le transfert de technologie, parce qu'il ne faut pas que non plus une entreprise vienne. Bon, on dit, je paye les taxes, je vous donne une partie d'eux et je m'en vais. Alors qu'on devrait, effectivement, vous avez parlé donc de légiférer dans ce sens, imposer que chaque entreprise qui viendrait ici recruterait au moins un bon pourcentage de ce qu'on appelle les cadres et que ces gens-là puissent profiter de cette technologie en termes de savoir, en termes de qualification, en termes de compétences, pour pouvoir remplacer celui qui était là. Mais si vous venez avec votre affaire, vous vous enfermez entre cadres de chez vous, vous exploitez, vous nous laissez quelques sous et vous vous en allez, Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans plus tard, ce sera toujours pareil.
Absolument.
On n'aura pas encore réussi. Donc, transfert de compétences, absolument, transfert de technologies, absolument, et surtout, surtout, de ce point de vue-là, faire en sorte qu'il y ait obligation pour chaque entreprise qui vient de recruter, et ensuite, quand vous recrutez, que vous ayez la possibilité que tel poste soit obligatoirement occupé par un Africain pour s'obliger de rester au Sénégal, par un Sénégalais. Mais si vous prenez tout et vous en allez, vous nous laissez avec la pollution, parfois on nous laisse la pollution et après on s'en va. Donc, même ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise également, il faudrait bien revoir ça, que les entreprises ne viennent pas, polluent, exploitent et s'en vont. Il faut évidemment que cela
suppose. C'est-à-dire que la transformation des matières premières, comme par exemple le pétrole ou le gaz, pourquoi les vendre en matière, comme matière brute? On peut faire de la pétrochimie, on peut faire...
Regardez par exemple, nous avons également d'autres produits, si vous prenez le cas du Sénégal par exemple, nous avons la noix d'anacarde qui est ici. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant longtemps, si vous alliez à Ziguinchor, même à Dakar, etc., bon, vous trouviez ça. Maintenant, c'est devenu très cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays qui prend et qui va ailleurs. Alors, comme disait monsieur, avec beaucoup, une bonne image, une métaphore, il dit, ils nous prennent une matière, l'amènent chez eux, la transforment, nous la ramènent, nous oblige à faire la publicité de ce produit-là, nous le consommons, et parfois nous le consommons même en mauvaise qualité,
oui.
Et après ça nous rend encore plus malade, et plus nous sommes malades et dans la tête et dans le corps, mieux le gars il se positionne, parce que nous n'avons pas été vigilants.
Alors,
mais pourquoi ne pas le transformer sur place, c'est important, mais pour transformer encore il faut. Et je parlais donc du chômage des jeunes. Ces jeunes, il faut les former. Qui peut les former? Ce n'est pas seulement l'école, mais c'est également l'entreprise qui vient, qui doit pouvoir recruter, laisser quelque chose en termes de compétences. Mais si tout s'en va. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle la fuite des cerveaux.
Oui, oui.
Il y a des gens qui font leurs études ici, de très bonnes études. Ils sont où? Ils sont quelque part au Canada. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis. Ces fuites de cerveaux sont encouragées par quoi? Par le fait que les entreprises qui viennent ici ne laissent pas suffisamment de choses et les compétences qui se développent là s'en vont ailleurs parce que l'entreprise qui vient me forme sur un pourcentage de 104, on en prend deux, c'est les trois, ils sont bien formés, mais après qu'est-ce qui se passe? C'est l'exportation de...
Donc, de ce point de vue, Ibrahim Bakoum, il y a la Russie qui vient de lancer une coopération nucléaire énorme avec l'Égypte. Elle va construire une très grande centrale nucléaire qui va fournir au moins 50% de l'électricité du pays. C'est une centrale avec 4 réacteurs à eau pressurisée. Donc elle va former les gens à la technique du nucléaire. C'est jamais les pays occidentaux n'ont autorisé à donner ce genre de technologie aux pays africains. Jamais. Jamais. Et en plus de ça, la Russie va financer sur les 30 milliards du coût de cette centrale énorme de 4,2 gigawatts. Donc, elle va fournir 25 milliards de dollars, soit environ 4 à 25% du coût de la centrale. Donc, est-ce que cet exemple vous inspire, vous? Et pensez-vous que le Sénégal, peut-être, pourrait, justement, comme la Russie est prête à donner cette technologie aux pays africains, d'ailleurs, il y a des pays comme le Mali, le Burkina Faso, qui sont intéressés à aller dans ce sens de coopération avec la Russie?
L'idée n'est pas nouvelle. Ça a été agité ici au Sénégal, évidemment par un régime qui n'est plus là. Je veux dire, à l'époque, c'était un certain M. Karim Wade qui avait lancé cette idée. Oui, ça peut être intéressant pour nous parce que de toute façon, il faut diversifier. Mais encore, il faut que les gens nous aident à bien utiliser le soleil parce que nous en avons beaucoup, l'énergie solaire également. Ça peut être une alternative intéressante, mais pas exclusive.
Mmh. Ben, je vous remercie, cher ami. Pour cet entretien, pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Ibrahim Bakoum, j'espère vous retrouver dans les semaines à venir dans un autre entretien pour discuter d'une autre thématiques concernant peut-être le Sénégal ou même toute l'Afrique. Alors, merci encore une fois et à très bientôt.
Merci à vous.
C'était Ebrahima Bakhoum, journaliste et analyste politique sénégalais, membre du groupe de facilitation pour la pacification de l'espace politique. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.